Alors Rashi dit, Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham. Rashi dit, les toldot de Yitzhak ben Abraham, c'est Yaakov et Esav, dont on va parler plus bas. Mais néanmoins, le pasouk dit, Abraham olid et Yitzhak. Parce que on a dit que Yitzhak était ben Abraham, on doit dire qu'Abraham olid et Yitzhak, parce que, dit Rashi, l'Eletzane Ador disait que Sarah était enceinte d'Abimelech, comme elle a été enlevée par Abimelech. Il disait que Sarah était enceinte d'Abimelech. Vous voyez, la Letzanout, elle n'a pas de limite, parce que quel est le problème? C'est Sarah, c'était une vieille dame, que le géniteur, ce soit Abraham ou Abimelech, il y a quand même un S chez Sarah. L'essentiel, c'est qu'on puisse dire que c'est pas Abraham. C'est des Midrashim qui disent qu'en fait, Abraham et Sarah, ils ont ramassé un enfant perdu dans les rues et ils en ont fait leur fils, etc. Enfin, un délire complet pour ne pas reconnaître que... Alors du coup, Hachem a été obligé de faire en sorte que le visage d'Yitzhak soit la copie conforme de celui d'Abraham. Donc c'était difficile ensuite de continuer à dire que... Mais Abimelech dit à Sarah que le géniteur c'était Abimelech. Donc tout le monde a été obligé de reconnaître cela. Alors, voilà, ceci étant mis en place, Vahi Yitzhak ben Arbaim Shana. Alors c'est étrange parce que on parle des toldot. D'ordinaire, quand on annonce les toldot, c'est après la vie de quelqu'un. Voilà, il a vécu, etc. Voici ses toldot. Ici, il n'est même pas encore marié. D'accord? Puisque la Torah, elle va dire, après qu'on ait annoncé les toldot, Kachi a dit, c'est de Yaakov et d'Esav dont on va parler plus loin. Alors il dit, voilà, Yitzhak, il avait 40 ans quand il a épousé Rivka, la fille de Betuel l'araméen, de Padan Aram, la sœur de Lavan, l'araméen lui aussi, il l'a prise pour épouse. Comme si on ne savait pas que... On sait déjà tout ça, on a déjà vu que Rivka était la fille de Betuel, la sœur de Lavan. Tout ça, on sait. Rashi, justement, bon, évidemment, il s'est arrêté là-dessus. Rashi dit, « Vechi adayin lo nirtav shibat betuel ve'achot lavan, pandan aram. » Alors, est-ce qu'on ne le sait pas? Ça a déjà été écrit explicitement, donc... Qu'est-ce que c'est que la Torah elle vient me répéter ici? Elle a lehagid shvacha she'aita bat rasha ve'achot rasha koma anche resha ve'lo lamda ma'asem. Et pourquoi pas dans l'arabe? Parce qu'il y avait deux aram. Aram Naraim ve'aram Tzova. Alors on lit padan lashon tzemed pour dire qu'il c'était un couple. Yesh potrin padan aram mos de aram shebilshon Ishmael korin le sade padan. En arabe, ou dans un certain arabe, un chant ça se dit padan. Voilà. Donc ce problème-là, il est réglé. C'est encore une fois l'éloge de cette fois-ci l'éloge de Rivka qu'on a plus ou moins déjà fait. Mais qu'elle est née dans un endroit pourri, d'un père pourri et d'un frère pourri, enfin avec un frère pourri, et elle a réussi à ne pas apprendre de leur façon de faire. Elle est la fameuse Shoshana ben Achochim, elle est la fameuse rose parmi les ronces. La question c'est quand même effectivement... Comment on fait pour ne pas apprendre, pour ne pas être imprégné de... Le Rambam dit qu'on n'échappe pas à l'influence de son milieu. Alors, elle avait un milieu complètement pourri, un père pourri, un frère pourri. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle avait qui lui a Alors, on sait qu'elle avait une nourrice, mais qu'est-ce qu'elle avait cette nourrice? Est-ce qu'elle était capable de faire le poids? Qui était-elle? Est-ce qu'elle peut faire le poids contre tout le milieu, etc.? C'est pas très clair comment elle fait pour pousser dans ce milieu-là, la fameuse rose. Voilà, c'est son Sheva. Pardon? Oui.
Par contrario, ça permet l'éclosion
par opposition. Oui, c'est possible. Mais bon. Bon, c'est déjà l'image de la rose parmi les ronces. Les ronces, on en a déjà parlé les autres années. C'est un peu compliqué parce que une rose, c'est une ronce, non? C'est quelque chose comme ça. C'est la même chose. C'est une rose, ça a l'air d'être une ronce qui a mal tourné, quoi. Donc il a 40 ans. Et en fait, il va avoir 60 ans quand les enfants vont naître. Alors, est-ce que c'était nécessaire pour lui d'attendre si longtemps? Rashi va expliquer, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, que comment est-ce qu'une femme aussi parfaite que Rivka, elle peut donner naissance un bonhomme comme Esav. Certains disent, c'est à cause de Laban. Il y a une Gemara qui dit que les enfants, ils ressemblent aux frères de la mère. Bien. C'est pas vraiment complètement éclairant. Alors voilà, donc il l'a prise comme épouse. Ve'yaitar Yitzhak l'Hashem le nochach ishto ki akarahi, ve'yater lo Hashem v'ta'a Rivka ishto. Alors, il a prié, Yitzhak, il a prié Hashem, le nochach ishto, c'est-à-dire en face de sa femme, ou à cause de sa femme. C'est-à-dire que lui, il n'était pas. Il ne va pas prendre une servante, quoi. Il ne va pas faire comme son père, accepter une servante. Sa femme est stérile, semble-t-il, donc prendre une servante. Non. Lui, il va. Le mot qui est utilisé ici, va y à terre, c'est prier, mais c'est un mot qui fait référence quasiment à une bêche ou à une pelle avec laquelle on retourne la terre. Donc ça veut dire qu'il a prié avec une intensité énorme. Il fallait retourner le monde, quoi. Quelque part, comme s'il fallait changer cette espèce de décret qu'elle devait être stérile. Ça aussi, c'est un petit peu difficile, parce que par ailleurs, on nous dit que la raison pour laquelle les imaot sont stériles, c'est parce qu'Hachem veut leur prière. Donc c'est pas qu'il fallait changer les choses. Il fallait prier, alors il a prié. Lui, il a prié. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est que quand on dit qu'elles sont stériles, on veut dire Hachem veut entendre la prière des femmes. Et là, l'accent, il est mis sur le fait que lui, il prie. Elle va prier. Elle prie aussi, hein, mais l'accent, il est mis là sur sa prière à lui. C'est lui qui renverse les mondes, hein, qui veut changer les choses. Mais
il a prié beaucoup et il a prié longtemps.
Oui, il a prié beaucoup et longtemps, comme vous dites. Et bon, elle était Akara. Donc, on a l'impression que, voilà, elle est Akara, elle est vraiment stérile. C'est pas qu'elle n'a pas d'enfant, je dirais, elle est vraiment stérile.
Qu'elle n'a pas d'utérus,
Ça, c'est dit sur Sarah. J'ai jamais entendu sur Rivka. Oui.
Mais on est sûr que c'est elle qui était stérile.
Que c'est elle qui était stérile.
Parce que comme Yitzhak, il n'a pas épousé de servante.
Oui.
C'est marqué à Karahi. La Torah témoigne que c'est Akarahi.
Oui. Non, mais c'est clair que c'est elle qui était stérile, mais d'où il le savait, lui? Non, mais là c'est, il y a un qui Akarahi. On n'envisage pas que sur Avraham, on dit que lui, il était tumtum, en fait. Qu'il, lui aussi, il était stérile au départ. Là-bas, ils étaient tous les deux stériles. Sur Yitzhak, on ne le dit pas, on ne dit pas ça. Et alors, Rashi ramène, parce que le verset, il a l'air de dire que il a prié, et Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il lui a répondu en quelque sorte, il a accepté sa prière. Vata Rivka Ishto, et Rivka est devenue enceinte. Qu'est-ce qu'il aurait manqué si le verset avait seulement dit qu'il a prié pour sa femme qui était stérile? Vata Rivka Ishto. Il a prié et ça a eu comme conséquence que sa femme est enceinte. Donc la réponse c'est ici Vayater lo Hashem. Donc vous voyez, c'est le même mot. Comme si en fait Hachem lui avait retourné la chose, retourné la... Tu as prié et retourne. Il a retourné en sa faveur. Alors du coup, Rashi dit, Vayaterlo, donc lui il explique que c'est Aftzara, qu'il a beaucoup prié, il apporte des preuves, et ensuite il écrit le Nochachishto Zeomed, alors, en face de sa femme, en présence de sa femme, Zeomed bezavizu umitpalel, Zeomed et bezavizu umitpalelet. Rashi ramène la Gemara qui dit que chacun d'eux était dans un coin et il priait. Chacun priait et vayater lo. Et c'est pour ça que le verset dit s'ils ont prié tous les deux, mais c'est lui qui a eu la réponse. La réponse était à sa prière à lui. Lo velola, à lui et pas à elle. She'en domet filat tzadik ben tzadik le filat tzadik ben racha. Le fichach, lo velola. Alors ça, ça fait toujours problème pour tout le monde, pratiquement. Bon, il n'y a que la Torah qui peut dire que la réponse était à sa prière à lui. Et pas la prière à elle, parce qu'ils prient tous les deux, on pourrait dire, voilà, bon, peut-être il a répondu aux deux, etc. Non, il a répondu à lui. Et d'où est-ce qu'on le sait? C'est parce que la prière de Tzadik, fils de Tzadik, est plus...
C'est plus efficace que...
Enadomé. Ça ne se ressemble pas. Elle est... On ne peut pas, la prière de la Tzadek et Bat Racha, elle ne peut pas être à la hauteur de la prière du Tzadik ben Tzadik. La plupart des gens diront, mais elle a d'autant plus de mérite, non?
Oui.
Lui, à la limite, il a vu son papa prier, alors il prie aussi. Elle n'a jamais vu son père prier, et elle prie. Donc elle devrait avoir plus de mérite que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la tfila du tzadik, ben tzadik, est plus efficace, disons, que la tfila de la tzadik et fils de la tzadik et fille de Racha?
Bah, l'autoroute est déjà tracée, quoi. C'est...
C'est ça. Il y a quelque chose qui s'appelle, qui se dit dans la Gemara de la manière suivante. C'est marqué que Akovea Tfilato, celui qui Makom Tfilato, celui qui fixe un endroit pour prier, est le Ké Avraham Beozro. Le Dieu d'Abraham l'aide. Une fois qu'on a fixé un endroit pour prier, toujours au même endroit. Alors, pourquoi c'est marqué le Dieu d'Abraham va l'aider? Parce que quelque part, si tu fixes, tu fais référence à une prière antérieure. D'accord? Tu comprends très bien que ta prière d'aujourd'hui, elle va avoir une efficacité qui est plus grande grâce à la prière d'hier. Comme vous disiez, c'est comme en alpinisme, quoi, si vous voulez. La voie a déjà été ouverte. Quelqu'un a tracé la voie. Alors, celui qui trace la voie de la prière, pour tout le monde, c'est Abraham. Donc, le Dieu d'Abraham va l'aider parce qu'il a compris ce principe qu'il faut prier toujours au même endroit. Il faut fixer un endroit. Alors, c'est clair que si on fixe l'endroit de sa prière, ça aide pratiquement parce que on n'est pas dérangé. On connaît les yeux sont pas tiens, tout à coup il y a une fente dans le mur là-bas. Suivre la fente. Tu l'as déjà regardé. Ça fait 20 ans que tu la vois cette fente dans le mur. Tu vas pas la suivre encore une fois. Il y a quelque chose. L'environnement est porteur en fait. On est porté par. Et c'est pour ça que parfois il y a une ambiance, par exemple, dans certaines choses, dans certains bâtiments, on sent que, voilà, à cet endroit-là, on a beaucoup prié, et on est aidé. C'est un endroit. Quand c'est un endroit quelconque, où il faut faire le chemin, c'est inventer le chemin à un certain endroit, c'est peut-être plus difficile.
Ah oui, soi-même, je pense pas. Quand on va prier dans une autre chose, parce qu'on est invité et tout. Enfin, moi, personnellement, j'ai plus de mal à me concentrer, parce que,
oui, il y a trop de nouveautés.
Mes yeux regardent des choses et puis je n'arrive pas à faire abstraction
de
l'environnement. Quand je suis à ma place, toujours la même, le spectacle ne me divertit pas.
C'est ça. Mais alors peut-être qu'il faut dire la chose comme ça. L'efficacité de la prière ne dépend peut-être pas du mérite de celui qui prie. Elle est efficace. Peut-être qu'elle a plus de mérite que lui, oui, c'est possible. Elle a dû inventer le chemin. Lui, il n'avait pas besoin de l'inventer.
Mais
l'efficacité, le chemin, on y arrive quand même mieux, c'est le chemin est déjà tracé.
Tu vois, c'était beau sérieux, quoi. Il y avait plein de roses.
Ouais, ouais. Ensuite, je voulais m'arrêter un instant sur le fait que c'est le même mot qui dit la prière de Yitzhak et la réponse d'Hachem. Alors là, on a ce. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. C'est pas une histoire. C'est la Gemara, elle dit que Ein hatfila chozeret rekam. La prière ne revient pas vide. En français, ça veut dire il y a une efficacité de la prière. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte, il dit une drôle de chose. Il parle du retour de la prière. Et la prière ne revient pas vide. La prière, elle revient. Ça veut dire elle revient. C'est ça. Yéter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Comment ça fonctionne, la prière? Après ça. La prière, c'est comme ça. Vous priez. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans la prière? Dans la prière, on essaye de fabriquer ce qu'on appelle le Ratzon Hashem. On essaye de fabriquer la volonté divine. Si vous voulez, d'abord parce qu'il faut savoir que le but de l'exercice, c'est pas d'obtenir le résultat. C'est pas comme vous allez obtenir un résultat, vous allez supplier quelqu'un qui a son corps défendant, ou bien parce que c'est son intérêt, etc., il vous donnera la chose. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut qu'Hachem veuille nous donner. On veut obtenir le ratson d'Hachem. C'est ce que nous disons. Retse, veuille. Retse, on demande à Hachem, veuille. Pas simplement donne-nous. D'accord ? Mais veuille. On veut fabriquer le ratson d'Hachem. Je veux qu'Hachem ait envie de me donner encore, si vous parlez comme ça. Et alors, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je dis ce que je veux. D'accord ? Et la prière, ma parole, elle monte jusque là où elle peut aller, là où la prière peut monter. Et à cet endroit-là, éventuellement, la prière, elle est... J'ai demandé que les choses soient comme ceci ou comme cela. C'est comme si, à cet endroit-là, elle était estampillée. OK. Et on renvoie. Ce que j'ai demandé, c'est... Oui, ça revient. J'ai demandé que ça soit bleu. Il revient, la chose sera bleue. Avec un tampon. Hachem est d'accord. Hachem veut bien que la chose soit bleue. D'accord ? Donc c'est ça, Atfila Choseret, elle revient. C'est la prière elle-même qui revient. Et on voit ça dans les halachot. Parce que la halacha, elle nous aide toujours. La halacha, elle est que celui qui prie dans sa prière, il doit faire en sorte que son oreille entende sa prière. Ça veut dire, je dois faire une boucle qui va de ma bouche à mon oreille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma prière, cette boucle-là, elle ne va pas faire ça, mais on va étirer la boucle jusqu'à ce qu'elle arrive là où la prière peut arriver, mais c'est toujours la même boucle. D'accord ? On n'a pas changé la topologie de la chose, c'est toujours la même boucle, simplement on l'a agrandie, et elle revient dans mon oreille. Donc c'est vraiment la prière qui revient. Donc d'une certaine manière, quand je prie, je prie à moi-même, si on peut parler comme ça, au sens de, pas je prie à moi-même, mais je prie, et la prière, elle est dirigée vers mon oreille. Mais que ça veut dire, c'est dirigée vers mon oreille? La Neshama, elle est dite, Chelek Eloka Mima'al, c'est-à-dire notre Neshama, notre âme, c'est une chelek eloka mima'al, une part de la divinité en haut. C'est-à-dire, il y a une part de nous-mêmes, qui est peut-être au-dessus même du mot neshama, il y a chaya et chida, il y a deux niveaux supplémentaires encore, et le haut de la neshama, de ma neshama, est dans le ciel, et il est, ce haut-là, il est dans la divinité quasiment. Chelek Eloka, une partie de la divinité. Un Neshama est une partie de la divinité. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que quand je dis Elokai, mon Dieu, à qu'est-ce que je m'adresse? Je m'adresse d'une certaine manière, bien sûr c'est Hachem, mais Elokai veut dire, je m'adresse à ma part de la divinité. Donc, je me parle à moi-même en quelque sorte. Mais le moi-même en question, c'est pas mon estomac, c'est à la part de moi-même qui est divine. La part de ma neshama qui est divine. Donc c'est dirigé vers Hachem, on sait bien que c'est... On demande à Hachem, mais pourquoi je dis Elokai? Comment je peux m'adresser à Elokai? Comment je peux m'appeler Elokai nous? C'est quoi Elokai nous? C'est quoi ça? C'est la part de la neshama du clan Israël, en quelque sorte, qui est divine. C'est une partie de la divinité. C'est ça notre accès à la divinité. Comment on y arrive à la divinité? Il y a un trou. Alors, moi je parle, puis maintenant, comment ça passe? Le gars m'explique que c'est ça. Ça monte de cette manière-là. Ça monte quasiment en moi. C'est au-dessus de moi, parce que la neshama, elle est essentiellement en dehors de nous. D'accord? Elle monte dans ma neshama. Ma parole monte dans ma neshama. Jusque tout en haut, jusqu'à la partie de Maneshama qui est divine. Et donc c'est comme ça que Hachem la reçoit en quelque sorte. Et il accepte ou il n'accepte pas. Mais ce qu'on nous dit, ça revient jamais vide. Ça veut dire, il y a toujours une réponse. Ah, et des fois on a l'impression que, où elle est la réponse? T'as pas écouté? La réponse, c'est des fois, Parfois, c'est non. La réponse, des fois, c'est non. On imagine que s'il y a une réponse, ça veut dire oui. Mais non, la réponse, ça peut être non. Ça peut être non parce que c'est pas bon pour toi. Tu veux quelque chose, mais c'est pas bon pour toi. C'est pour ça que nous sommes parfaitement conscients que ce que nous demandons n'est pas obligatoirement bon pour nous. C'est pour ça qu'on dit toujours, on demande à Hachem, « Shimal et Mishalot libeinu » qu'Hachem remplisse les demandes, nos demandes, le Tova, si c'est pour le bien. Je dis, voilà, moi je demande ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon pour moi, donc je ne le demande que si Hachem juge que c'est bon pour moi. Dans ce cas-là, je le demande. Si ce n'est pas bon pour moi, alors je n'ai rien demandé. Comme je ne suis pas capable de savoir si c'est bon pour moi, je ne suis pas toujours capable, en tout cas, des fois je sais que ce n'est pas bon, mais des fois je ne sais pas, alors je dis le Tova. Je le demande, mais à condition que ça soit bon pour moi. Si ce n'est pas bon pour moi, ne me le donne pas.
Alors, quel intérêt de demander? Parce que ça répond à un intérêt personnel. De
non, mais bon pour moi, ce n'est pas bon. Oui, bien sûr. Mais si je demande, si quelqu'un demande quelque chose qui n'est pas bon pour lui, le problème, c'est est-ce qu'on va le lui donner?
Non.
Ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours comme ça. C'est presque toujours. Il y a un petit problème. Là-dessus, il y a un Zohar, l'Agma, elle dit pratiquement la même chose. Il y a un Zohar qui dit qu'on peut, en insistant, obtenir quelque chose qui n'est pas bon pour soi.
Hachem a dit à Moshe,
Hachem a dit, on voit très bien dans la Torah, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, stop, arrête de prier. Parce que Moshe Rabbeinu, il savait que s'il continue de prier, il va obtenir ce qu'il veut. Hachem lui dit, c'est pas bon ni pour toi, ni pour le clan d'Israël, arrête. Pourquoi il lui dit d'arrêter de prier? Le clan lui dit, écoute, tu peux prier ce que tu veux, je t'écoute pas. Mon cher Rabbeinu, il savait comment on prie. Il savait que ça allait passer. Mais bon, il a une relation avec Hachem, Hachem lui dit, non, arrête. Arrête de prier. Arrête de prier, c'est pas bon pour nous.
Et vous dites donc.
Et dans le Zohar, il dit, un truc, bon, c'est. Je vous le dis, mais bon, après, il faut y réfléchir. Le Zohar, il dit que quelqu'un peut obtenir un zivou qui n'est pas le sien. Quelqu'un prie pour, je veux obtenir cette femme-là. Mais si ce n'est pas la tienne, si ce n'est pas celle qui est prévue dans ton zivou, si tu insistes, éventuellement, il se peut que tu l'obtiennes. Seulement après, c'est un désastre. Parce que si celui qui est le vrai benzouk de cette femme, il réclame son... etc. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il l'a obligé de faire divorcer ou de tuer celui qui a épousé cette femme pour qu'elle redevienne libre. Pour qu'elle puisse épouser celui qui est son benzouk. Alors, c'est le Zohar, il faut savoir. En tout cas, le Zohar dit, on peut obtenir ça. C'est un peu. Bon, on voit chez Moshe Rabbeinu qu'on peut. On voit de la Torah qu'on peut. Bon, des fois, les choses sont dans le Zohar, alors on voit de le Zohar, mais la Torah, elle dit la même chose. Oui. Bon. Effectivement. Et on voit très bien que sa prière, elle n'a pu marcher que parce qu'elle a eu Rachel qui a été d'accord de lui céder sa place. Quand Rachel lui cède sa place, Rachel, elle pense qu'elle n'épousera jamais Yaakov. Parce que puisque Yaakov, il fait partie des Avot, que les Avot, ils respectaient la Torah avant qu'elle ait été donnée, Yaakov, normalement, il n'a pas le droit d'épouser les deux femmes vivant l'une de l'autre. Deux sœurs vivant l'une de l'autre. Et c'est pour ça que, certains disent, c'est pour ça que la Torah n'a pas été donnée à ce moment-là. Parce que ce couple-là, finalement, Yaakov, probablement, il a compris que pour construire le clan d'Israël, il avait besoin de ces deux, mais en vérité de quatre femmes. Parce que il a Zilpa aussi. Et on voit ça aussi chez. Là aussi, ce que moi j'appelle la Dream Team du clan d'Israël. Les trois patrons du clan d'Israël, Moshe, Aaron et Myriam, c'est un scandale, ils sont de la même famille, c'est des frères et sœurs. Ils ont trusté complètement, c'est vraiment.
Je ne sais pas si c'est un nom. Du népotisme.
Pire que ça, oui, c'est ça. C'est... Mais d'ailleurs, c'est ce que Korach a reproché à Moshe Rabbeinu. D'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est difficilement compréhensible. Ça veut dire qu'en réalité, le clan d'Israël, il vient. On est aussi tous descendants d'une seule famille. D'accord. Si vous n'êtes pas au courant, je vous dois peut-être un mazel tov, mais enfin, vous êtes descendant d'un couple qui s'appelle Terach et Amtelai, et je ne vous cacherai pas que c'est le couple le plus pourri qu'on ait trouvé. Parce que le Midrash dit que les Malachim... Pardon, oui, c'est ça. Ouais. Alors, parce que les Malachim négatifs ne voulaient pas laisser descendre la Neshama d'Abraham dans le monde. Ils ont dit, au lieu d'être sur le qui-vive, l'empêcher de descendre, faisons-la descendre dans un endroit où elle remontera à coup sûr, elle ne remontera jamais. Donc on va chercher le couple le plus pourri du monde, et on va le laisser descendre là-bas. Le plus pourri du monde, c'est Terach et Amtelai. Et le clan Israël, il descend entièrement de Terach et Amtelai.
On le rappelle à la guerre.
Abraham, un fils, et Sarah, c'est une fille du deuxième frère Ram, et Rivka, et ensuite Rachel et Léa, sont les descendants de Betuel, qui est le fils de Nahor, qui est le troisième frère. Mazel Tov. D'accord. Les hommes et les femmes descendent, tout le monde descend de Terach et Amtelai. Et après, le clan d'Israël, il est gouverné, sorti d'Égypte et tout ce que vous voulez, par trois enfants d'une même famille, d'un couple qui, si la Torah avait déjà été donnée, n'aurait pas eu le droit de se former. Parce qu'Amram, il a épousé sa tante. Et on ne peut pas épouser sa tante. Donc, Yaakov, il a épousé deux sœurs. Amram, il a épousé sa tante. Mais tout ça, c'est avant Matan Torah. On peut dire aller plus loin, on peut dire Moshe il a épousé une Midianite, bon, que ce qu'ils lui ont reproché, ta Midianite à toi qui te l'a permise, et c'est avant Matan Torah de toute façon. Bon, ceci étant, on peut revenir. Alors voilà, et c'est lui qui a été exaucé. Et le voilà. Elle est enceinte. Vaitrotsatsu habanim bekirba. Les enfants, les fils, vaitrotsatsu. Qu'est-ce que ça veut dire, vaitrotsatsu? Ils se poussaient l'un l'autre, quoi. Kitsur, ils se disputaient. Ça veut dire que pourquoi ils se poussaient? Ils se poussaient pour passer devant. C'est-à-dire que Rashi va expliquer que quand Rivka passait devant un temple idolâtre, Esav il poussait Yaakov pour passer devant, parce que lui voulait sortir. Et quand Rivka passait devant Shechem et Ever, probablement c'était là Ishiva de l'endroit, d'accord? Alors c'est Yaakov qui poussait ça parce que lui il voulait. Donc ils se poussaient sans cesse l'un l'autre. Ça veut dire que leur. C'est un peu particulier parce que ça veut dire que déjà dans le ventre de leur mère, la lutte ou la confrontation entre. Et ça, Yaakov avait déjà commencé. Parce que l'un voulait ceci et l'autre voulait autre chose. Mais, a priori, le pasouk dit, va tomer, Rivka a dit, imken, si c'est comme ça, lamaze anochi. Pourquoi ça m'arrive à moi, ce truc? Va-t-elle l'idrosh et Hachem? Elle a décidé d'aller interroger Hachem, c'est-à-dire qu'elle va aller chez Hachem et Eber, sont bon, les Kohanim d'Hachem, pour leur demander qu'est-ce qui se passe là. Alors, elle a évidemment commencé par demander à toutes les femmes qui disaient non, nous on n'a jamais eu ça. Rashi dit, quand elle dit si c'est comme ça, Rashi dit Gadol Tsar Haïbour. Si la douleur de la grossesse est tellement étrange, tellement difficile, l'amazé anochi. Pourquoi anochi metava ou mitpalel est allé rayon? Pourquoi est-ce que j'ai prié pour ça? Pourquoi je désirais être enceinte? Et pourquoi est-ce que j'ai prié pour ça? Elle va à l'hydroche Tachem, si Agidla Mate Besofa. Elle veut qu'on lui dise qu'est-ce que ça va déboucher sur quoi ce truc. Vayomer Hachem là, Hachem lui a dit, Shne Goim Bevitner. Il y a deux peuples dans ton ventre. Shne Leumim, il y a deux nations, Mimeaïch Paredou, qui vont se séparer de tes entrailles. Où le homme mit le homme et une nation mit le homme yéhematz, elles vont se combattre l'une l'autre, verav yavod tsaïr, et le grand servira le plus jeune. Le plus âgé, enfin le premier-né, servira le plus jeune. Effectivement, c'est un peu surprenant parce que le verset suivant dit, vaïm leu yamea la ledet, veine tomim bevitna. Donc elle arrive au terme de sa grossesse, et voici, il y avait les jumeaux dans son ventre. Mais c'est ce qu'on lui a dit, non? C'était une surprise pour qui? Pour ceux qui n'avaient pas été, pas pour elle, puisque ils lui ont dit qu'il y avait deux. Le Rameau qui dit que elle était allée consulter Shem, le fils de Noach, qui avait un Shiva, et il lui a dit, c'est un Midrash qui dit que il lui a dit, je te confie un secret, mais tu dois le garder pour toi seul. C'est pour ça que Vehine, pour tout le monde, c'était une surprise, et elle a fait comme si c'était une surprise. Elle n'a pas fait, quand on a un secret, on ne peut pas dire, ah ouais, je le savais. Non, c'est pas. Le Maharal, il pose une question. Vous savez probablement qu'il y a eu une discussion entre Antoninus et Rebbi pour savoir quand le Yetzer Hara entre dans l'homme. L'homme, il a au départ que un Yetzer Hara, le Yetzer Hara il vient seulement à la Bar Mitzvah, mais ils se sont demandé quand est-ce que le Yetzer Hara entre dans l'homme. Et Rebbi a dit, ben, dès la conception. Alors Antonin lui a dit, pas du tout. Si le Yetzera était déjà au moment de la conception, le Yetzera, il ferait que l'enfant, il défoncerait les parois abdominales de sa mère et il sortirait. Donc, il n'y a de Yetzera qu'à la naissance. Alors maintenant, vous pouvez poser la question du Maharal. Qu'est-ce que je viens de vous dire avant? Que Esav était attiré vers la Volazara. Pourquoi il était attiré vers la Volazara? Il n'a pas dit de Yetzer Hara. Maharal pose la question. Ça ne marche pas. Alors, le Maharal répond que ce n'est pas Yetzer Hara. C'est une espèce d'attirance des semblables. Lui, il avait un penchant vers ça, qui n'était pas lié de Serara encore, qui n'allait pas, mais voilà, il a à voir avec ça, et donc c'est l'idolâtrie des deux côtés, en quelque sorte, qui, c'est comme, ça s'attire. Ça. Il explique que, voilà, ce sont des...
Comme un élément, quoi.
Ouais, comme s'il y avait un élément où, voilà, il se ça forme un couple en quelque sorte et ils s'attirent. Une loi naturelle d'attirance, quasi magnétique, d'éléments semblables. L'âme apparaît, mais ça ne résout pas complètement le problème parce que dit l'âme des saves à ce moment-là, elle était déjà apparentée à la Bonazara. Mais alors c'est quoi? On joue sous les mots. Il n'a pas dit Sara, mais il avait une âme apparentée. C'est quoi ça?
Tu sais, on est en train de faire de la parole d'Antoninus, comme si Rabbi ne savait pas que. Il ne s'était pas posé la question avant. Alors Antoninus, il dit ça, et puis comme on tient ça comme
Rabbi était d'accord.
Oui, justement, mais il n'y avait pas pensé avant.
Non, il pensait que Sara était dès le départ. Quand on lit, on a bien l'impression que Esav est l'un et Yetzara depuis le début. Ben non
oui. Et justement, comment on peut confirmer que, d'abord, plus, que si le Yetzara était là avant, ben, il aurait perforé la parole abdominale de sa mère.
Ben, non. Parce que le Yetzara, il s'occupe de rien. Il veut absolument ce qu'il veut. Et il va écraser tout ce qu'il peut sur son passage. Pour l'obtenir. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que la réponse, en disant que c'est une âme qui est un peu plus apparentée ou je ne sais pas quoi à la Velazara, ça fait un peu jeu de mots, jouer sur les mots. Il n'y a pas d'Yetzerara, mais il a une âme apparentée. C'est quoi ce truc?
C'est étonnant que leur destinée était déjà prévue dans le ventre, comme si leur vie et tout ce qu'ils ont eu comme penchant d'un côté ou de l'autre, on est revenu au même, on est revenu à l'état initial qu'ils étaient dans le ventre, et ben, à la fin, l'un il vient effectivement de s'agir et l'autre il vient effectivement à chaque fois.
Alors, le problème c'est comme ça, c'est effectivement. On peut effectivement naître avec un plus grand, plus ou moins grand Yetzerara, même s'il vient seulement à la naissance. Mais à chacun, il est demandé de travailler avec ce qui lui est donné. Alors, c'est possible que celui qui a un Yetzerara très fort, il arrivera à museler en quelque sorte son Yetzerara, et si tu veux, si on mettait une échelle, il avait un Yetzerara au départ de moins 35, il va travailler, il va arriver à moins 5. C'est toujours négatif, mais il a fait un travail fabuleux. Alors que celui qui avait un penchant à faire le bien, qui est né à plus 40, même plus 30, ouais, etc., et qui finalement il est un peu dégringolé, il est à 35, plus 35, il est positif, mais il y en a un qui a mal fait ce qu'il devait, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc, le fait que dans leur ventre, ils aient des penchants différents, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés, ça veut dire qu'ils ont ils auront une avoda différente, ils auront une tâche différente, ils vont travailler sur un autre matériau. Mais bon, c'est pas ça qui est important, en fait. Tu sais bien que c'est marqué qu'on doit servir Hachem avec le Yetzerara aussi. Donc ça veut pas dire servir Hachem avec le Yetzerara, ça veut dire tuer le Yetzerara. Ça veut dire utiliser le Yetzerara dans les circonstances où ce sera bien. Je vais donner, on vient d'en parler. Maad en Souka, Rabbi Eliezer, il pense que on devrait faire tous les repas dans la même souka. Lui, il n'était pas content des gens qui allaient se balader pendant la Moël, etc. Et alors, il a exprimé les choses en disant « Meshabeach ani et ha'atzlanim » « Je fais l'éloge des paresseux qui par paresse restent dans la même souka. » C'est la paresse qui fait. Mais c'est l'éloge, parce que comme ça, ils font ce qui doit être fait d'après moi, dit Rabbi Eliezer, là, à la fin. Donc là, en l'occurrence, on voit la paresse qui a été utilisée positivement. c'est pas brillant, mais voilà, on a servi Hachem, on a mis la paresse aussi au travail.
Ils n'ont rien mis au travail, les paresses, ils sont restés parce que la paresse, ils
n'y avaient pas. Oui, c'est ça, ils n'ont rien fait. Mais la paresse leur a permis de respecter la halakha de Rabbi Eliezer, alors que s'ils n'avaient pas été paresseux, ils seraient allés promener. Ils seraient allés rendre visite au tonton, à la tata, etc. Ils sont allés ailleurs, à Ouman ou ailleurs. Bon, voilà, donc, voilà la naissance, voilà, enfin, ce qui a précédé la naissance, et voilà, ils naissent, c'est les jumeaux, et le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir tous les deux en même temps. Il n'y a pas la place pour sortir tous les deux en même temps. Le problème de quelque chose, de deux choses qui devraient être dites en même temps et qui ne peuvent pas l'être, c'est tout le problème de la parole. Tout le dibour fait qu'on ne peut pas dire deux choses en même temps. Très calé l'omishtame. Deux voix X ne s'entendent pas.
On se pose toujours le problème de savoir par quoi commencer.
Donc on est obligé de les mettre dans un certain ordre. Alors des fois on dit voilà l'ordre, mais l'ordre n'est pas important. Je suis bien obligé de le mettre dans un certain ordre parce que je ne peux pas les mettre tous les deux en même temps, mais l'ordre n'est pas important, ou bien l'ordre est oui important. Alors ici, Vayetse Harishon, le premier. Il y en a bien un qui sort et qui est premier. Alors il est sorti Admoni, Kulo, Kaderet Sehar, Vaikrushmo, Esav. Il est sorti. Bon alors, voilà, c'est la. C'est la cata, il sort. Il est roux, et il est tout rouge. Imaginez, roux.
Ah, je ne sais pas s'ils avaient. C'est pas forcément qu'il est roux. Hein. C'est...
Il était rouge complètement, mais il était roux aussi.
Aussi.
Les cheveux aussi sont rouges. Ils sont rouges. Roux, c'est vraiment. Si une femme rouge au Moyen-Âge, elle avait toutes les chances de finir sur le bûcher. D'accord ? Considérée comme une sorcière, de finir brûlée. Donc les hommes, on ne les brûlait pas obligatoirement, mais bon, ils étaient maltraités. Et roux, c'est toujours quelque chose de. Même quelqu'un comme Shmuel, d'accord ? Quand Shmuel avait reçu l'ordre d'aller oindre un des fils d'Ishaï pour devenir roi.
Il était de côté.
Quand finalement, bon, Ishaï a fait venir les 8 fils, et finalement, au dernier, Shmuel était sûr, ben, ça doit être lui. Pas du tout, c'est pas lui. Alors il s'est tourné vers Ishaï, il en a encore un autre. Ouais, il y en a un qu'on a envoyé là-bas, comme berger dans les montagnes. Il fait venir. Et Shmuel dit, il le regarde, il dit, mais il est roux. C'est Esav. Vous vous rendez compte ?
Faut pas suivre.
Même Shmuel. Et la réponse, Hachem donne une réponse. Shmuel lui dit, oui, c'est vrai, il est roux, mais il a de beaux yeux. Ceux auxquels pas de beaux yeux, ça dit quelque chose, alors vous avez entendu. Si vous n'avez rien entendu, tant pis pour vous. Mais là, de beaux yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux, c'est la halakha. C'est-à-dire, c'est vrai, il est violent et tout ce que tu veux, mais il se plie à la halakha. Donc il va canaliser cette violence, elle est là, elle va lui permettre de jouer son rôle, mais il va canaliser. Grâce à ses yeux, c'est-à-dire, il va se plier complètement à la halakha. Donc, quelque part, on, si maintenant je reviens en arrière, un Essav qui se serait plié à la halakha, ça aurait été fantastique. Au lieu d'être une minorité,
si on n'avait pas,
on n'aurait pas de problème pour savoir trouver 61 membres à la Knesset, etc. On serait des millions, des milliards, comme les Chinois. D'accord ?
C'est là qu'il y a la question de si Léal avait épousé, ça aurait été un tzadik. Parce que d'un côté, on a vu tout à l'heure que la prière peut être exaucée, alors elle ne voulait absolument pas, alors qu'elle devait savoir, par prophétie, puisque c'est une des hypothèses qu'elle a, que le destin aurait changé, et ça serait devenu un tzadik.
Non, mais si elle pensait ça, elle aurait prié pour ça, non ? Bon, elle pensait que ça n'allait pas marcher. Mais en vérité, on ne peut pas dire que Esav était perdu, parce que vous savez bien qu'on fait le reproche à Yaakov d'avoir caché Dina. Parce que Dina, c'est Yosef, d'une certaine manière, et Dina avait la possibilité de faire tshuva à Esav. Et c'est Yaakov qui n'a pas voulu la donner en... Comme tout le monde dit toujours, est-ce que vous avez envie de donner votre fille en mariage à Esav? Mais Yaakov...
C'est Dina.
Bon, donc ça veut dire que quelqu'un pouvait faire tshuva à Esav. Et on n'a pas fait. Et probablement que quand Yitzhak Avinu voulait... Bon, on explique après différemment aussi, mais ce que Yitzhak Avinu voulait, je pense, c'est que les deux travaillent ensemble. Yaakov, ce soit le théoricien, quoi, quelque part, il va élaborer la halakha, etc. Bon, sur le terrain, un Esav qui respecterait la halakha, mais qui aurait cette force, etc., il va imposer la Torah.
Comme Issachar et Zvulun.
Oui. Bon. Ah, c'est ça. Le problème est toujours le même, si vous voulez. Le problème des frères, c'est un big problème. Parce que il y a deux frères au départ, Cain et Abel. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est qu'ils se partagent le monde. Il ne faut pas se partager le monde. Il faut travailler ensemble sur le monde. Mais pas partager le monde. Ensuite, les trois fils de Noé, ils se partagent le monde. Ça fait aussi les guerres. On voit très bien que la nature est de partager le monde. Et l'idée de travailler ensemble, elle n'est pas là. Ou elle viendrait seulement après. Et d'ailleurs, on dit toujours... que la fraternité, le fait d'avoir des frères, c'est désastreux, et qu'il y a un seul exemple où c'est pas désastreux, c'est ce qu'on dit, « Ine matov umanaim, shevet achim gam yachad », c'est super, etc., quand deux frères vivent ensemble, qui c'est les deux frères qui vivent ensemble? Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, c'est les frères qui vivent ensemble. Ils ne se sont pas partagés le monde. De facto, ils ont chacun un rôle. On ne veut pas dire que chacun doit faire le même travail. Il y a un rôle, mais c'est les rôles qui vont ensemble, avec le souci de chacun que l'autre puisse faire son boulot. Ou Hachem dit à Moshe, Moshe Rabbeinu n'y vient pas. Ça lui a coûté très cher à Moshe Rabbeinu de ne pas vouloir marcher sur les plates-bandes de son frère. À cause de ça, il n'a pas voulu aller libérer les Bnei Israël. Et à cause de ça, il a perdu la Kehuna. Parce que Moshe Rabbeinu, il aurait dû être Kohen Gadol aussi. Comme il a refusé d'aller sortir les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Il dit, moi, je ne peux pas arriver, je suis le petit frère, d'une part. Et je suis le planqué, quoi. Lui, Aaron, il est sur le terrain, c'est lui qui console tout le monde, c'est lui qui donne de la force à tout le monde. Et moi, j'arrive à la fin, comme ça, avec une carrière, prince héritier d'Égypte, roi à Couche. Bon, après, il a passé un mauvais quart d'heure chez Yitro, un quart d'heure de 10 ans, et, au fond d'un trou chez Yitro. Mais ensuite, bon, et voilà. Et maintenant, Hachem me parle, etc. Et Hachem dit à Moshe, tu te trompes. Verra Acham et Samar Belibo. Moi, dit Hachem, je témoigne que Aaron, quand il te verra, il va se réjouir dans son cœur. Personne ne peut le savoir. Peut-être que c'est l'hypocrisie. Non, moi je dis, dans son cœur, il se réjouit. Il va se réjouir de ce qui arrive à Moshe. Et Moshe, son souci, c'est Aaron. Et chaque fois, il a un souci de travailler ensemble, quoi. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Autrement, c'est tout de suite désastreux. Les fils de David, je ne dis pas, chacun veut régner à la place de l'autre, et que si ça ne va pas bien, je te tue, etc.
Parce qu'on apprend de là que le partage, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que Hachem aussi, il a partagé avec Israël pour chacune des tribus. Il aurait pu faire en sorte que toutes les tribus soient reconnaissables
alors, de leur territoire. Le problème là-dessus, d'abord, tu as raison, il y a eu un partage. D'abord, on peut presque dire que ça a mal tourné, hein, finalement. Bon, 10 tribus sont parties. Et puis, ça fait un schisme. D'accord, le problème, c'est après Shlomo HaMelech, il y a un schisme. Entre un groupe de tribus, enfin la quasi-totalité, et 2 tribus et demie éventuellement, de l'autre côté. Donc là, ça ne marche pas non plus. Tu partages, ça ne marche pas. Et la raison, ça je m'étais déjà demandé souvent, quand les Israël arrivent en Eretz Israël, pourquoi on a gardé la structure tribale? Je vous en ai peut-être déjà parlé. D'accord. Il n'y a plus lieu de garder la structure tribale.
On est âme.
Oui, c'est un peuple, voilà. Mais je crois que il faut penser que les tribus, c'est des peuples différents. C'est ce qu'ils ont dit à leur père. Sur le lit de mort de Yaakov, vous savez bien, Yaakov, il regarde ses fils et il dit, mais j'ai complètement raté. Je devais construire le clan Israël, puis là j'ai donc un peuple, et voilà, j'en ai 12. J'ai 12 peuples. Alors les fils de Yaakov, ils ont dit, oui, tu as raison, on est 12 peuples. Mais, Shema Israël, écoute Israël, il parle à leur père. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On n'a rien en commun, sauf ça. Notre émouna dans Hachem qui est Elokeinu et qui est Echad. C'est ça, le clan Israël, il tient là-dessus. Mais, c'est vrai, on est des peuples différents. Et donc, quelque part, on a, ça il faut bien le réfléchir, si vous voulez, il y a visiblement, avec cette pérennité des tribus, une volonté de préserver une diversité, en quelque sorte. On voulait garder de la diversité. D'accord ? Que le clan Israël, pour pouvoir jouer son rôle, il faut qu'il soit riche, extrêmement riche, et on est plus riche, mais à condition qu'ils travaillent ensemble. Mais chacun garde sa spécificité pour amener les composantes, alors que sinon c'est un nivellement, obligatoirement. D'accord, ça fera un melting pot. D'accord, mais bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus la richesse. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été. Ce qu'ils ont essayé de faire en Israël d'une certaine manière, qu'ils ont plus ou moins réussi, mais il y a toutes sortes de gens qui disent, mais non, ils veulent se retrouver quand même entre eux, les anciens, les gens de Constantine et de Vilna, etc. Ils veulent être ensemble. Donc ils veulent garder cette diversité, au lieu de la de niveler avec. Là, le conventionniste, il voulait vraiment éradiquer complètement toutes les différences. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien du tout. C'est un homme nouveau, de toute façon, dans leur idée. Et cet homme nouveau, il n'a rien à voir avec le passé. Donc, évidemment, rien à voir avec la diversité qui est la résultante de Galoute. Mais, en fait, visiblement, la Torah n'a jamais demandé qu'on oublie ce partage en tribus, bien qu'on soit dans un pays où on pourrait imaginer que voilà, on n'a plus besoin de garder ça en tribu.
On peut être un homme nouveau et en même temps garder les...
Mais non, si on est nouveau, par définition, nouveau, il n'a rien à voir avec l'ancien.
Si, le chidouche, c'est un chidouche, mais à partir de... Il reste lié au, mais... au patrimoine.
En quoi il serait nouveau?
Parce qu'il, à partir de tout le... Comment dire? À partir du patrimoine qui est déjà ancien, il arrive à sortir une nouveauté. Et en ça, c'est un appel à un chidouche. Non, un chidouche, c'est pas quelque chose de nouveau qui sort comme ça à partir de rien.
Non, mais ça n'existe pas à partir de rien. Mais...
Enfin, quand je dis à partir de rien, sans le...
Oui, mais ça veut dire que, dans l'hypothèse de l'homme nouveau, que ce soit l'homme nouveau socialiste, communiste, sioniste, ou ben, tous les hommes nouveaux, les Lumières, etc., c'est toujours en rupture avec le passé. Donc lui, voilà ce qu'il est, et on l'a appelé Esav. Esav, si vous enlevez Esav, c'est... Aleph, le Ein, Sin, ou Shin, Vav, c'est Asso, il est fait. Il est né tout fait. Complet, terminé. Donc quelque part, il y a justement, quand les choses sont finies, il n'y a pas tellement de possibilités de renouveau, puisque c'est fini. Alors que Yaakov, justement, il n'est pas fini, justement. Il est, de ce point de vue-là, il est totalement ouvert.